Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Eh ben oui, nous, il n'y a pas de jour férié, on est là et on est content d'être là pendant 2 heures en votre compagnie avec une superbe équipe autour de moi, comme d'habitude. Et il y a de l'actu, il y a déjà, ça y est, c'est tombé, le champion de France, c'est le Paris Saint-Germain. Eh ben ça tombe, on va en parler à 18h, mais encore plein de choses. Et puis surtout, on parlera de la liste de Didier Deschamps qui tombe ce soir. Eh ben, on a hâte, on a des petites infos à vous donner, donc soyez là pendant 2 heures. Vous allez tout savoir avant même que Didier Deschamps donne sa liste à 20h20 ce soir sur TF1 et face au brillant Gilles Boulot qui va le mettre dans les cordes. Ça, c'est sûr, on est persuadé. On est avec Benoît Boutron. Ça va, Benoît ?
Salut Jérôme, salut à tous. Ça va super. Je rappelle que la liste de Jérôme est déjà disponible. Elle est tombée hier soir. Ouais. Et que ce soir à 21h, on comparera la liste de Deschamps à la liste de Jérôme.
Voilà. Ouais, c'est pas facile
Ah, je préfère la tienne, je pense.
Oui, non, mais je te parle dans la position de Didier, conférence de presse et tout. C'est
forcément influencé par ce que t'as fait.
Ouais, et puis là moi, face à moi, j'avais des journalistes qui allaient.
La conférence de presse est dispo sur YouTube, hein, la chaîne Roten.
Poser des questions, ce qui sera pas le cas de
Laure Boulot.
De Gilles Boulot. Ouais. Ouais. On embrasse leur boulot aussi, bien sûr. On est avec Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut Jean-Michel.
Bonjour. Félicitations, Benoît.
Merci.
Remarquable.
Alors, on a perdu un consultant pour la saison prochaine, mais moins, on a permis à Miguel de remporter un magnifique cadeau.
Bon.
Un consultant.
Eric, il m'a menacé. Il m'a dit, écoute.
Il menace tout le monde, Eric.
Oui, c'est vrai.
Écoute.
Il était comme ça sur le terrain, il va pas changer, non ?
Ouais. Je suis content.
Il y en a un qui a été menacé par Eric Dimeco plus d'une fois à l'entraînement. Oui. C'est Jean-Pierre Papin. Salut, JPP.
Salut, les amis.
Salut, JPP.
Ça va, Jean-Pierre ? Salut.
Ça va bien, très,
bon,
très bien.
Écoute,
il n'allait jamais sur le côté droit quand il jouait à l'OM.
Les entraînements, Jean-Pierre restait dans l'axe.
Les oppositions, il restait dans l'axe.
Ouais, c'était là, j'étais le meilleur, donc c'est normal.
Ah bah oui, en plus, oui. Bah oui.
Sachez que Jean-Pierre revit avec son nouveau genou. Hein. Tout va mieux pour JPP.
Ah,
et
ouais,
ça, on est rassuré. Voilà, notre ballon d'or va beaucoup mieux. C'est un Roten sans flamme exceptionnel. Ah,
je peux vous livrer quand même une coulisse, là. Il y a la cellule RMC Sport.
La cellule équipe de France vient d'entrer dans ce studio.
Avec en costume, costume, cravate, chemise blanche.
Costume des grands soirs.
Non, mais c'est
vraiment bien. Hein,
Arthur Perrault, Fabrice Hawkins. Salut les gars.
C'est étincelant.
Salut messieurs. Bonsoir.
Salut à tous.
Franchement, non, mais ils m'ont fait flipper. Hein, ils sont arrivés les deux comme ça. Bah, c'est bon.
On a mis les moyens. Ils sont exceptionnels. Dispositif exceptionnel.
Et puis je vous dis, c'est pour ça que je vous disais, restez bien à l'écoute. Vous allez avoir la liste avant tout le monde. Voilà, parce que là, ils sont sur deux. Ils ont dit, on a la liste. C'est bon.
L'événement aujourd'hui sur RMC, donc l'annonce de la liste de Didier Deschamps, les 26 joueurs de l'équipe de France qui vont embarquer direction les États-Unis pour disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026, annonce prévue à 20h. Mais grâce à Fabrice, grâce à Arthur, nous avons déjà toutes les infos.
Indiscrétions.
Bah, allons-y les gars.
Merci à Raphaël.
Parce que là, vous venez de sortir des infos sur la liste qui va tomber à 20h. Et Fabrice, il y a une surprise offensive notamment qui devrait se confirmer à 20h.
Oui, parce qu'on attendait tous Randal Kolo Muani dans cette liste. C'est vrai qu'il n'a pas forcément été toujours performant en Première Ligue avec un seul but. Jérôme, on en parlait hier soir. Il n'avait pas que des sympathisants, on va dire. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il représentait dans le groupe et par rapport à son passif et la relation qu'il avait avec Didier Deschamps et qu'il a, on était en droit peut-être de l'attendre dans cette liste. Et les informations qui nous viennent, c'est que tout simplement, il n'y sera pas dans cette liste. Randal Kolo Muani participera pas à sa deuxième Coupe du Monde et c'est Jean-Philippe Mateta qui devrait lui être préféré, le buteur de Crystal Palace qui lui a inscrit 11 buts cette saison en Première Ligue et aussi du fait que Hugo Ekitike est blessé, c'est un profil de numéro 9, de point de fixation qu'il n'y a pas énormément, hein. Il y a Marcus Thuram, quoique lui aussi peut jouer sur le côté ou à deux avec l'Inter Milan et c'est vrai qu'il voulait un vrai neuf un peu à l'image d'Olivier Giroud et ce serait donc Jean-Philippe Mateta. Et puis deuxième info, mais ça on en parlait déjà hier parce que on l'avait déjà senti venir, c'est le gardien Robin Risser, le gardien de Lens qui sera appelé, j'allais dire en lieu et place de Lucas Chevalier, pas forcément parce que la place lui était pas destinée, mais c'est vrai qu'en début de saison on imaginait tous et c'était presque pas un débat. Lucas Chevalier participait à la Coupe du Monde et finalement il participera pas à la Coupe du Monde et la place s'est même jouée avec le gardien de West Ham, Alphonse Areola. Finalement ce sera donc Robin Risser.
Ah donc à la fin de la discussion c'était soit Areola, soit...
Exactement.
Okay. Bah, on les a les 26, hein, ils sont retrouvés sur RMC rmcsport.fr avec les infos de Fabrice. Donc, pas la peine d'écouter Didier Deschamps. On pourra en faire des débats.
L'herbe sur le pied. On va l'écouter quand même. On va l'écouter quand même.
Camavinga, c'est sûr.
On va l'écouter Didier Deschamps.
Ah, quand même. On va surveiller.
Camavinga, c'est sûr.
C'est pas sûr. C'est tendance favorable, mais c'est pas sûr. Je serais pas aussi affirmatif sur Camavinga, par exemple, que sur Robert Rissard, même si je pense qu'il va y aller, mais c'est pas sûr.
Eh ben, merci Fabrice pour toutes ces infos.
Par rapport à Coulisso, ça serait dingue.
Précisons donc que la liste tombera ce soir dans le JT de TF1 à 20h, la liste de Didier Deschamps. Ouais. Merci Fabrice. Donc Mateta devrait filer aux États-Unis. D'ailleurs, on parlera de Lucas Chevalier, et c'est l'une des informations. Lucas Chevalier ne devrait pas aller aux États-Unis. La VAR de Rotten sans flamme à 19h30. Est-ce que ce sera le coup de grâce pour Chevalier, qui était arrivé dans la position numéro 1 à Paris, qui a tout perdu en un an?
Assez dur. Hein.
Comment rebondir? On en débat donc à 19h30. L'autre fait d'actualité, c'est évidemment le documentaire Netflix sur Nice-Na, qui est sorti hier, qui fait beaucoup parler. La colère de Raymond Domenech, qui est mise en cause dans ce documentaire. Il a donné son accord pour délivrer son journal intime. Il a été exploité, ce journal intime, pour le documentaire. Raymond Domenech estime que c'est malheureusement une mauvaise interprétation de tout ce qu'il a dit. On en débattra à 19h. Ça fait rire Jean-Michel.
Ah oui,
Jean-Michel, Jean-Pierre et Jérôme ont vu le doc. Est-ce que Raymond Domenech est le seul responsable du fiasco de Nice-Na? On sera avec un acteur justement de cette année-là et de cet épisode fou du foot français. Robert Duverne, l'homme au chrono, sera avec nous. Souvenez-vous de sa colère sur le terrain d'entraînement.
Il pleurera pas.
A priori non, mais il viendra nous donner son avis sur le doc et sur la façon dont cette histoire est racontée. Donc Robert Duverne à 19h dans Rotten sans flamme. Et puis à 18h30, on va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent que Didier Deschamps possède la meilleure génération de l'histoire des Bleus. Vous allez voir, il y a des avis différents dans la Dream Team. On rappelle également que l'événement la semaine prochaine, ce sera la finale de la Coupe de France Crédit Agricole entre Lens et Nice, vendredi 22 mai au Stade de France. On vous offre deux places cette semaine. Le vainqueur sera tiré au sort et interviendra dans Rotten sans flamme demain à 19h30. Pour tenter votre chance, vous envoyez finale au 7-32-16. Finale au 7-32-16. Allez, 18h07 sur RMC. Tout de suite, Jérôme.
Allez, on y va.
Tous les Parisiens ont très bien fêté ce titre de champion de France.
C'est la fête.
Une tour Eiffel solitaire, comme isolée au milieu de son jardin. Le Champ de Mars est vidé de ses touristes et de ses voitures.
Attention au ballon gratté par Dembélé, Kvaratskhelia, but ! Ils sont cliniques, les Parisiens !
Eh oh, il y a quelqu'un ici !
Ah bah il n'y a personne.
Toué qui va accélérer dans la surface de réparation. Il y entre à l'instant. Le ballon retrait. La frappe d'une balle. Oh le but. Oh il est beau. Oh qu'il est beau.
Hormis quelques voitures et quelques passants, ça reste relativement calme et désert pour le moment.
Vous voyez, il n'y a pas un chat. Personne.
C'est terminé. Le PSG, pour la 14e fois de son histoire, est champion de France. C'est officiel. C'est mathématique. C'est fait. C'est dans l'escarcelle des Parisiens.
Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne.
Le 14e titre de champion de France décroché par le Paris Saint-Germain hier soir à Lens, victoire 2-0, un grand Safonov côté parisien avec 8 arrêts. C'est le 5e titre d'affilée pour Paris, qui est déjà focalisé sur la finale de Ligue des Champions dans 16 jours à Budapest contre Arsenal. Un titre particulier, c'est le plus dur de l'ère Luis Enrique, c'est l'entraîneur espagnol qui l'a dit. Mais précisons que Paris s'est servi de ce championnat pour gérer les états de forme de ses joueurs. Arthur Perrault était à Lens, il nous rejoint. Salut Arthur.
Rebonsoir.
Salut Arthur,
ce titre de champion de France, il a à peine été fêté justement par le vestiaire du PSG.
Oui, un nouveau trophée obtenu hier soir au Stade Bollard, donc fêté en toute sobriété, avec quelques chants seulement dans le vestiaire. Les femmes des joueurs aussi qui ont pu participer à quelques discussions à la fin de cette rencontre, mais voilà, pas plus de joie. Après ce succès contre Lens, son principal rival tout au long de la saison, l'entraîneur parisien Luis Enrique est soulagé.
Plus savouré et aussi plus difficile. Les plus difficiles des trois qu'on a joué ici sont aucun doute. Mais ça a été parce que Lens a fait un très bon boulot. Je me rappelle pendant cette session des moments, j'ai vu quel type de match ils ont gagné et la quantité de matchs qu'ils ont gagné consécutifs. On a eu beaucoup de joueurs blessés avec peu de vacances cet dernier été. Ça a été difficile à gérer et on a eu des difficultés.
Et hier soir, Paris peut remercier son gardien Matvei Safonov, auteur d'une prestation XXL, 8 parades décisives. Le gardien est fier de sa prestation à 2 semaines du rendez-vous tant attendu, la finale de la Ligue des Champions.
j'ai eu le travail aujourd'hui. Oui, c'est pas tous les matchs comme ça, mais je pense que j'ai eu les résultats de mon travail, notre mentalité, parce que les résultats de notre équipe à cette saison, c'est aussi des résultats de mon travail. Et je suis très content avec ça, mais notre chemin n'est pas fini. On a une idée à notre tête, toute l'équipe. On va continuer le travail avec grande concentration.
Voilà, le club parisien est déjà concentré sur la finale de Coupe d'Europe le 30 mai à Budapest. Mais avant, Paris aura à cœur de briller lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche soir avec le derby face au Paris FC.
Merci Arthur, reste avec nous, c'est la une de Rotten sans flamme. Paris champion, est-ce toujours un événement 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce que t'as fêté ça hier soir? Est-ce que tu dis, ça y est, t'as sorti le champagne, les coupes de champagne, tout ce qu'il faut?
Écoute, moi j'ai rien fêté du tout. Maintenant vous connaissez mon le respect et puis surtout mon cœur qui vibre plus pour le Paris Saint-Germain que pour les autres, mais c'est comme ça, c'est mon histoire de vie. Mais après, il faut être objectif et surtout se rendre compte d'une chose, c'est que les passionnés qu'on est tous là autour du plateau et tous les auditeurs qui nous écoutent, on est des grands passionnés de football. On a envie de vibrer, on a envie de se régaler. Et la vérité, c'est que pour moi, le PSG, et c'est peut-être dur ce que je vais dire, hein, le PSG est depuis on va dire les années Luis Enrique, parce que je parle pas des autres années, mais pour moi c'est la première année que le champion il est pas si beau que ça en fait. Ah. Pour moi, non, il est pas beau parce que.
Est-ce qu'il est moins beau que le PSG de l'ère Galtier?
T'écoutes quand je te parle. Oui. Je te parle de Luis Enrique. Oui. C'est sa troisième année.
Oui.
Voilà, je vais pas parler d'Unai Emery, de Tourelle, de Galtier ou quoi que ce soit. Ça, c'était une autre génération avec d'autres joueurs et tout ça. Je te parle depuis que Luis Enrique est là. Je trouve que, en effet,
Jérôme, les saisons précédentes, il avait pas gagné. La saison précédente, la finale de la Coupe d'Europe de la Ligue des Champions, et il n'avait pas disputé.
L'année dernière, ils l'ont gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu me racontes?
Mais justement, c'est ce que je te dis. Ah. L'an dernier, ça veut dire qu'il y a quand même eu des répercussions sur cette
mais
saison.
Mais ça, j'en ai rien à faire. Mais pourquoi tu me parles de ça?
Et le fait qu'ils disputent le championnat du monde des clubs là.
Mais
rien à foutre aussi.
Mais j'en ai rien à faire.
Ça n'a aucune conséquence sur cette saison.
Mais il y a des circonstances atténuantes. La preuve, c'est que pourquoi le PSG est moins beau cette année par rapport aux autres années, c'est que déjà tu regardes les joueurs cadres, les joueurs importants en Ligue des Champions, il y en a beaucoup qui ont quasiment pas joué. Et quand tu fais Ousmane Dembélé qui a 9 titularisations, 10 maintenant en Ligue 1 sur 33 ou 34 matchs, excuse-moi, qu'en effet, Kvaratskhelia, vous l'avez vu? J'ai bien aimé l'avis de Daniel Riolo hier dans l'after sur Kvaratskhelia. Ouais. Il a raison.
En Ligue 1, il n'a pas envie.
Ce que je veux dire, mais c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il ne se met pas en mode guerrier comme il fait en Ligue des Champions. Tu l'as vu les matchs de Ligue des Champions? Le mec, il ne rate rien. Ouais. C'est un dragster. C'est vraiment, c'est fantastique ce qu'il peut faire. Il pousse les autres et tout ça. À l'arrivée, en Ligue 1, bah, il subit parce que de toute façon, il n'a pas besoin. Il sait qu'il est fort. La preuve, hier, en faisant un mauvais match, il arrive à marquer le but qui donne le titre. Allez, on le savait, parce que c'était un secret de Polichinelle, qu'ils allaient être champions de France.
Mais est-ce que c'est problématique pour la Ligue ?
Moi, je te dis, c'est problématique pour plein de choses. C'est que le PSG, en effet, contrairement à d'autres années, pour moi, il y a eu beaucoup de matchs. Et la preuve, ça se traduit en termes de résultats, où ils ont perdu plus de matchs cette année. Ils ont fait beaucoup plus de matchs nuls et beaucoup plus de mauvais matchs au Parc des Princes. Je parle même pas des matchs à l'extérieur, mais au Parc des Princes, on a vu par moments le PSG s'imposer avec des purges. C'est la vérité. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que bah, quand tu changes et tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c'est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j'ai rien contre lui, mais Dro Fernandez, il a beaucoup joué depuis qu'il est arrivé en championnat, d'accord. Mais Dro Fernandez, tu le mets dans un autre club de Ligue 1, je suis même pas sûr, n'importe quel club de Ligue 1, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire.
Mais ça c'est un autre cas, ça c'est un autre problème.
Non,
t'as raison,
mais ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l'attractivité et le spectacle. Donc c'est pour ça que je te dis bravo, ils sont champions. Ils le méritent parce que de toute façon ils sont beaucoup plus forts que les autres. Ouais. Mais après, pour reparler plus globalement de l'attractivité de notre championnat, Ben oui, c'est un problème. C'est un problème parce que si ton champion, déjà, par moment, le spectacle n'est pas assuré, mais les autres équipes, elles font quoi, en fait? Elles manquent de régularité, elles manquent de constance. Il y a des équipes qui sont bien pendant un certain temps et après, ça dégringole, ça se casse la gueule et ça se voit en termes de nombre de points. Parce que je suis désolé, le PSG, avec ce nombre de points-là, normalement, tu as des équipes qui sont programmées pour les accrocher au moins jusqu'au bout. Je te dis pas les dépasser, mais les accrocher. Tu crois que c'est normal que Lyon, que Monaco, que Lille, que Marseille, ils soient à 15-20 points du Paris Saint-Germain? Ce PSG-là, ce n'est pas normal. Mais ça, la faute à qui? On l'a
mais
dit.
Mais c'est pas la faute au PSG.
Non, c'est la faute à qui?
Si l'OM, Lyon, ils sont à 15 points.
C'est la faute à qui? Eh ben à tous ceux, à la Ligue, professionnels de football, qui se gargarisent parce que le PSG, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Et grâce à leur travail, le PSG bénéficie de ça et est champion d'Europe. Moi, je vais vous dire, mais rien à foutre de ça. Je suis désolé. Il y a vous travaillez n'importe comment. Le championnat, il se casse la tronche d'année en année. Les équipes, elles s'appauvrissent de plus en plus parce que vous faites un travail catastrophique. Parce qu'on l'a dit avec notre pétition. Pourquoi on a dit on est contre le report de match? Parce que ça joue sur l'attractivité de notre championnat. Parce que le PSG, ils n'ont pas besoin d'avoir ce report de match. La preuve, avec l'équipe BIS, ils sont champions de France. Donc, en fait, vous en avez rien à faire. Non, ça m'énerve parce que on sera incapable de vendre notre championnat dans un futur proche. Ouais. Parce que c'est pas possible. Les gens, ils vont pas investir dans un championnat qui vaut rien. Regarde les équipes et je finis là-dessus.
C'est autre chose, tu t'égares là.
Je finis là-dessus. Les équipes qui vont jouer la Ligue des Champions, d'accord. Lille, Lens, magnifique, ils ont fait. Ou peut-être Lyon, ils ont fait un bon travail. Ou Rennes, ils ont fait un bon travail cette année. Ils sont là avec les meilleurs. D'accord, il manque de régularité, de constance, ils sont là avec les meilleurs. Mais moi, je vous le dis, à cause de ces gens à la Ligue professionnelle de football, qu'est-ce qui va se passer dans ces clubs-là, vu qu'il n'y a plus d'argent? Ben, les meilleurs joueurs qui ont permis de se qualifier en Coupe d'Europe, ils vont se barrer.
Exactement.
Ils vont se barrer. Et donc, tu vas avoir une équipe de Rennes, de Lille, de Lyon ou de Lens qui sera moins bonne l'année prochaine avec la Ligue des Champions. Bravo, la Ligue. Bravo, monsieur Labrune. Ah. Et faites le beau avec Nasser El Khelaifi sur la finale, comme vous l'avez fait au Bayern Munich. Continuez, c'est magnifique. Et puis, prenez la Coupe aussi d'Europe parce que c'est grâce à vous.
18h17, il est déjà tout rouge, c'est un grand Rotten sans flamme, on le savait, et c'est pas terminé. Jean-Michel, est-ce que c'est toujours un événement de voir le PSG champion?
Non mais je suis beaucoup moins catégorique que Jérôme sur la saison du Paris Saint-Germain. Hier par exemple, je vais y revenir rapidement, hier par exemple, vous m'excuserez, mais à la mi-temps, moi quand on me vole mes émotions, je m'enfuis. Et là, je rejoins Jérôme là-dessus. À la mi-temps de la rencontre au sommet entre Lens et le Paris Saint-Germain, j'ai changé de chaîne.
T'es parti?
Parce que je suis parti.
Ok.
Je suis parti parce que ça me dégoûtait. Il y a un mois, je me serais régalé de voir le sommet du championnat de France, peut-être avec une équipe différente du Paris Saint-Germain. Peut-être avec la même équipe, mais à ce moment-là, c'était un sommet, c'était un match que véritablement tu avais envie de voir. Mmh. Hier à la mi-temps, je me suis tiré parce que nos amis de la Ligue m'ont enlevé mon bébé, m'ont enlevé le choc de Ligue 1 des matchs retour. Il faut quand même être drôlement connecté pour faire des bêtises pareilles. Quand je dis des bêtises, le mot n'est pas suffisamment fort. Vous vous rendez compte qu'hier, ce match-là, ce qui devait être une rencontre entre deux rapaces de grande envergure, c'était entre deux piafs, deux moineaux, quoi.
Ah oui.
Enfin, c'est fou quand même de se
deux équipes focalisées sur leurs finales respectives.
Ah oui. Ouais, exactement, de s'auto-détruire. Donc, effectivement, s'il y a un point où je te rejoins, pas sur le titre de champion, parce que hier, quand je vois la défense, il n'y a pas un titulaire qui a joué.
Ben non, mais comme très souvent. Ah oui. comme très souvent.
Mais on a dressé l'équipe en Ligue 1 en fonction des temps de jeu, vous allez voir que ça fait peur.
Mais malgré tout quoi, Jean-Michel, mais ils ont Lens hier. Non mais franchement, il faut être objectif. Lens, il mérite au moins de faire match nul hier.
Au moins.
Il y a Jésus dans les buts.
Bien sûr.
C'est vrai. Il faut un bon match.
C'est la résurrection de Jésus. Tiens, ça tombe bien.
Dans le bon match, Jérôme, ce qui nous manque le plus, c'est l'émotion. Ils nous gonflent quand même. C'est quand même, tu as l'impression qu'ils veulent détruire le football professionnel. Ils ont déjà vendu. Ils ont déjà vendu les bijoux de famille. Maintenant, ils nous enlèvent les chocs.
Si je vous entends tous les deux, ça veut dire que la première action que peut mener la Ligue, c'est d'arrêter avec ces histoires de report la saison prochaine.
Mais la première action que doit mener la Ligue, c'est de se tirer et de ne plus exister.
Ah oui, ça, c'est pas... Ah, ouais, moi, je suis d'accord avec eux.
Pas pensé.
C'est la première action.
Déjà, c'est la première action.
Est-ce que c'est un événement...
Dégagé.
Alors moi je suis d'accord avec et Jean-Michel et Jérôme par rapport au report, bien évidemment, parce que un choc, et celui-là en particulier, premier contre second, il aurait dû être joué avant, bien évidemment. Par contre, pour moi, c'est le plus beau titre du PSG. Parce que pour moi, ils ont prouvé qu'ils avaient plus qu'une équipe. Et ça, je pense que dans notre championnat à nous, d'avoir fait révéler ces jeunes, alors que je dirais les titulaires étaient un peu malades par rapport à la Coupe du Monde, etc., beaucoup de blessés, etc. Moi, j'ai adoré le management de Luis Enrique, où il a fait reposer absolument, ses joueurs.
Absolument.
Et sincèrement, d'avoir vu même hier le match, c'est vrai qu'il y a un grand Safonov. C'est vrai que le PSG a subi énormément d'occasions, mais ça joue, ça court, ça joue. Et moi, c'est ce que je veux quand je regarde du football.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est
après,
vrai.
Regarde Jean-Pierre, je vous la donne l'équipe type du PSG si on prend
le nombre de matchs joués,
le temps de jeu
sur en Ligue 1.
Chevalier dans le but, arrière droit Warren Zaïre-Emery, arrière gauche Lucas Hernandez, défense centrale Zabarni, Pacho a pas mal joué en Ligue 1. Milieu de terrain Mayulu, Beraldo, Vitinha. Et une attaque, Lee, Barcola, Gvara. Voici les joueurs qui ont plus joué cette saison avec le Paris Saint-Germain.
Ça veut tout dire.
Vous savez, Paris est champion avec son équipe.
Mais attention, ça veut pas dire que ces joueurs-là sont des tocards. Mais oui, c'est ça qui est inquiétant parce que, attention, moi je respecte ces joueurs-là. La preuve, ils sont champions eux.
Quand même, Gvara, Vitinha,
mais ça joue sur le spectacle qu'on peut avoir. Et Jean-Pierre, t'as raison. Ce que je veux dire, ce PSG-là, moi, quand je te parle qu'il est moins rayonnant que les autres années, c'est qu'il est moins spectaculaire et moins bon, parce que quand tu donnes cette équipe-là...
C'est le fond qu'il faut regarder, Jérôme.
Oui, mais c'est
le fond. Le fond, ça veut dire que c'est un club avec des jeunes qui peuvent demain jouer dans n'importe quel club de France.
Mais tu es d'accord, Jean-Pierre, avec moi, que les locomotives, c'est important en termes de spectacle pour créer une attractivité.
Mais quand les locomotives, elles sont en panne, tu fais comment?
Non, mais c'est sûr, oui, mais alors déjà, si tu as numéro 1, elle joue à moitié le jeu, mais encore une fois, j'ai rien à dire.
La
gestion de Luis Enrique, elle est magnifique avec le staff et tout ça. Ils ont raison de faire ça, ils sont champions.
Exactement.
C'est les autres. Mais
moi, je me rappelle les premières émissions qu'on a faites après la Coupe du Monde. On se posait la question qui allait pouvoir tenir longtemps au PSG. On se posait juste la question de savoir si il n'y avait pas d'avoir un nombre important de blessés. Chose qu'il y a Luis Enrique, à un moment, il a même pas voulu acheter d'autres joueurs. Il a dit je vais aller avec mes jeunes.
C'est encore terrible pour les autres, Jean-Pierre.
Mais non, c'est pas terrible. Mais moi, je dis que c'est assez grand, je trouve. Moi, je trouve que c'est grand.
Ah oui,
voilà, non. Parce que ça s'est passé bien. Mais Jérôme, moi, c'est que ce qui m'interpelle dans ta réflexion sur le fait que ce soit tu penses que c'est le plus triste, c'est que
le moins spectaculaire.
Les joueurs titulaires le moins spectaculaire, les joueurs titulaires, et il y en a pas beaucoup dans l'équipe que vient de nous donner Benoît, les joueurs titulaires ils n'ont pas été évincés parce qu'ils étaient insuffisants dans leur performance, à l'exception de Chevalier, mais beaucoup parce qu'ils ont été blessés, non, me semble-t-il.
Blessés ou reposés parce qu'il y avait une fatigue,
non, mais
une
surcharge. Regarde l'exemple. Kang In-Lee, moi, j'ai rien à dire. Kang In-Lee, franchement, pour moi, il fait une première partie de saison qui est bien au-delà des espérances de tout le monde. Saison. Il fait une bonne saison par rapport aux autres années où tout le monde le voyait partant parce que, il s'intégrait pas correctement.
Même en fin de saison dernière, on pensait qu'il partirait.
Exactement. Ouais. À l'arrivée,
il est partant quand même.
Non, mais là, il va partir. Bah, je pense qu'il va partir. Mais la première partie de saison, j'ai rien contre Kang In-Li. Mais excuse-moi. Que Kang In-Li, Mayulu, Lucas Hernandez,
Beraldo, des titulaires. Bien et t'imagines,
ils ont le niveau du champion de France parce qu'ils ont permis à Paris d'être champion de France. Donc c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des autres équipes. C'est ça qui est terrible.
On a crié au génie quand Beraldo il joue au milieu de terrain. Ouais. Excuse-moi, que Beraldo milieu de terrain. Alors je dis pas que moi j'ai joué dans le meilleur PSG de l'histoire. C'est pas ça. Mais Beraldo milieu de terrain, franchement, j'en ai pas.
On dirait Tchouaméni.
Non mais ça va pas non.
Non ça, mais
je dévoile les coulisses, c'est soufflé par le producteur qui est fielleux et qui a tenté par tous les moyens et qui a trouvé le moyen larqué pour faire passer son message. Non mais c'est incroyable. Non, deux doigts de citer son
nom. Mais bon, moi je trouve que on doit voir plus et tu dois pousser le PSG en effet dans ses retranchements à faire mieux encore parce que t'as des équipes qui vont progresser derrière. Mais le problème c'est que tu les as fait les
bons.
Oui, ça suffit.
Tellement, on se gargarise qu'il y a une progression. On a failli en avoir deux en finale de Coupe d'Europe. Finalement, on n'en a qu'un.
C'est vrai.
Tu te rends compte un petit peu. Je pense qu'ils se seraient promenés torse nu pour qu'on voit leurs pectoraux.
Juste un mot d'ailleurs. Compte tenu du contexte, on ne sait même pas si le PSG va fêter son titre et où va fêter ce titre.
Pour l'instant, ça n'avance pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le PSG avait proposé à la préfecture de police de Paris d'ouvrir le Parc des Princes après le dernier match de championnat. Ça a été refusé par la préfecture de police. Exactement. Ensuite, la LFP a demandé au Paris FC s'il y avait la possibilité d'organiser quelque chose au stade Jean Bouin. Ça a été refusé vraisemblablement par le Paris FC. Et là, il y a d'autres pistes qui sont étudiées, notamment quelque chose plusieurs jours après le dernier match de championnat, pourquoi pas loin de la mairie de Paris. Mais ça, c'est quelque chose qui est étudié, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution.
Mais je rassure, Arthur.
La Ligue qui demande que le club rival qui joue à 50 mètres fête.
Ils peuvent le fêter chez vous.
Mais je pense qu'ils ont des problèmes neurologiques.
L'excitation sur un titre de champion de France, ça ne s'invente pas. Tu peux organiser ce que tu veux. De toute façon, tu le vois, les joueurs, ils sont programmés aujourd'hui pour. En jouant comme ça, ça suffit, on est champion. Le turnover mis par Luis Enrique, ça suffit, on est champion. Allez. Donc ils ont accepté ça. Voilà, ils le fêtent pas plus que ça. En plus, parce que t'as une façon, si tu veux, où tu t'habitues. Alors oui, c'est mieux de s'habituer à gagner. Mais c'est la cinquième fois de suite. Donc forcément, il y a moins d'excitation, même auprès des passionnés, des supporters du Paris Saint-Germain. C'est comme ça, parce que qu'est-ce qui les fait bandés, je suis désolé du terme, mais ces gens-là, c'est la Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu as eu la chance de créer des émotions incroyables l'année dernière avec la première Ligue des Champions, et tu as la chance de refaire une deuxième finale. Donc, ne le fêtez pas plus que ça, ça sert à rien d'aller demander à la préfecture de police, à ceci, cela. C'est bon. Le PSG champion, on le savait, de toute façon, ils avaient été champions la semaine dernière, du moins mercredi, quand ils ont battu Brest. Il y avait 15 buts d'avance.
15 buts d'avance et 6 points d'avance à la journée de la France.
C'est vrai qu'ils ont champion.
Salut, messieurs.
Merci
juste pour enfoncer le clou. Vous savez qu'il y avait eu un match de retard qui a été d'une intensité rare du côté de Francis Leblay.
Ah oui, Brest-Strasbourg, c'était passionnant. Victoire de Strasbourg 2-1. Ah non, c'est rien. Et t'as vu les conséquences au classement, surtout.
Ça avait bien démarré. Ça a joué une demi-heure.
Après, allez, dans un instant, le procès dans Rotten sans flamme, le procès de tous ceux qui pensent que Deschamps possède la meilleure génération de l'histoire des Bleus. La liste pour les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis tombera ce soir à 20h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme de ce jeudi de l'Ascension. Ça se passe bien avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. On a refait la ligue, maintenant on va continuer.
On a hâte d'être à 19h pour parler de Nashna. Est-ce que Raymond Domenech est le seul responsable de 16 pour participer avec nous?
Ah, c'est Jean-Michel qui va transpirer.
Robert Duverne sera là. Et un grand supporter niçois dans le Halo Jérôme ce soir, messieurs. Alain Marchal, l'homme des grandes gueules sur RMC, sera là.
Il a peur. Hein.
Sur la situation inquiétante de Nice, barragiste, avant la dernière journée de Ligue 1.
On peut plus, là.
On a trouvé une solution pour déplacer les supporters niçois. Je ne sais pas si vous avez vu. On va affréter 15 quarts. Nice, Stade de France, en quart, un vendredi. Ben voilà, incroyable. Et tout de suite, parlons de la liste de Didier Deschamps.
RMC, Roten sans flamme.
Le sélectionneur national a creusé la tombe du football français. Un sélectionneur qui ne travaille pas, qui n'a pas de conviction, qui ne délivre pas de message, qui ne parle jamais de football. Eh bien, le résultat est catastrophique, dramatique. À l'heure du bilan, je crois qu'ils sont tous à mettre au fond du même filet. Les joueurs dont les exigences financières et matérielles sont inversement proportionnelles à leur talent.
Le procès de Roten sans flamme.
Ça promet pour 19h.
Ça, c'est dit. Ça n'a rien à voir avec le procès qui se présente.
Non, le procès, non. Mais par rapport à Nesna,
c'est gratuit ce que vous venez de faire.
Bon, c'était bien, c'est pour nous remettre dans l'ambiance.
Oui, d'accord.
Toi, l'homme de radio. Alors, c'est le grand soir, la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Nous sommes à 28 jours du match d'ouverture. Il y a peu de suspense autour de cette liste, encore moins grâce aux infos de Fabrice Hawkins. Je les rappelle d'ailleurs, on devrait avoir Robin Rissière en numéro 3 chez les gardiens de but et Jean-Philippe Mateta en attaque. Mateta qui va rejoindre un groupe d'attaquants de grande qualité, Dembélé, Mbappé, Olysée, Cherki, Doué, Barcola. On peut rajouter Marcus Thuram qui vient de faire le doublé avec l'Inter Coupe Championnat. Un groupe qui a plus de talent et de potentiel qu'en 2022. C'est Kylian Mbappé qui l'a dit au mois de mars. On va donc ouvrir ce soir le procès de tous ceux qui pensent que Deschamps possède la meilleure génération de l'histoire de l'équipe de France. On a un procureur ce soir, c'est Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Deux avocats, même s'ils vont émettre quelques bémols. Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Pierre Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Thibaut qui va rendre son verdict au 32-16. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Merci d'être là. J'espère que tu es objectif et que tu vas écouter les plaidoiries pour te faire un avis. Jérôme, vas-y, démarre sur ce procès. Pour toi, on ne peut pas dire que c'est la meilleure génération de l'histoire de l'équipe de France.
Non, parce que c'est faire oublier un peu trop facilement le passé. On a la chance en France. Et j'en ai profité aussi d'avoir des générations qui se renouvellent très bien et depuis une trentaine d'années d'avoir, alors je suis pas remonté plus loin parce que j'étais gamin, mais et le football était pas autant médiatisé. Et que les joueurs avec l'arrêt Bosman qui arrivait après restaient principalement en France, donc ça on n'avait pas vraiment de comparaison sur le niveau de certains joueurs avec des épopées en Coupe d'Europe. Mais depuis une trentaine d'années, c'est le cas. Et depuis une trentaine d'années, quand tu vois toutes les grandes compétitions qu'on a pu jouer, je suis désolé, on a toujours fait partie des favoris. Très souvent, on a fait des très belles compétitions. Très peu de compétitions, à part peut-être en 2002 où on est passé.
2010 aussi.
2010 aussi, bah voilà. C'est, ouais,
et 2008 aussi.
Et 2008 aussi où c'était pas.
2008-2010, c'est un point commun.
Exactement. C'est bizarre. Ouais. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que. À côté de ça, c'est pas parce que tu passes à côté que t'avais pas le potentiel pour gagner et que tu faisais pas partie des favoris. Et donc, dire aujourd'hui que parce que dans le secteur offensif, bien sûr qu'on a des grands joueurs. On a des très grands joueurs. Déjà, on a un ballon d'or. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les générations. On a un mec qui depuis quelques années était attendu comme le meilleur joueur du monde et le ballon d'or, bon, il ne l'a jamais eu, c'est Kylian Mbappé
qui a mis 41 buts en 41 matchs,
mais qui est soulier d'or,
trois dans une finale de Coupe du Monde.
Vu que c'est important pour lui le titre de soulier d'or, il faut bien le dire quand même. Derrière, on a quand même des joueurs capables de gagner cette année le ballon d'or avec Olysée. Tu peux rajouter Doué, Barcola, Cherki. Bon, on a dans le secteur offensif une équipe fantastique. Mais encore une fois, je renvoie les gens qui te disent oui, mais on n'avait pas l'équivalent avant. Moi, j'ai eu la chance de faire en 2004 l'Euro, et pourtant on l'a pas gagné. Mais l'Euro 2004 avec un duo d'attaquants Thierry Henry, David Trezeguet, avec Zinedine Zidane, avec Robert Pires, qui était au top, avec Will Tord, avec Djibril Cissé qui était meilleur buteur et qui marquait des buts. Donc ce que je veux dire, Steve Marley aussi qui avait un gros potentiel et qui marquait des buts. Donc ce que je veux dire, c'est que juste pour comparer, il y a un peu plus de 20 ans, alors, cette équipe a été monstrueuse, mais a été monstrueuse aussi au milieu de terrain,
oui,
parce que t'avais Vieira, t'avais Dembélé, qui jouait dans les meilleurs clubs au monde, qui faisait office. Voilà. Et qu'aujourd'hui, moi, je veux bien que Jean-Michel Larquet défende la génération d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il va me dire sur le milieu de terrain qui critique et qui est le meilleur milieu de terrain de l'histoire? Donc arrêtez. On a une belle équipe. On mérite peut-être, et j'espère, d'avoir la troisième étoile, mais arrêtez de me dire que c'est la première fois qu'on a une génération dorée comme ça.
Parole à la défiance.
Ah bah oui. D'abord hors sujet. Excusez-moi. D'abord hors sujet. On me posait la question, est-ce que Didier Deschamps, lui, me parle déjà à l'époque où il y avait Domenech et Aimé Jacquet.
La question, c'est est-ce que Deschamps possède la meilleure génération de l'histoire des Bleus?
Voilà, exactement. C'est ça la question.
C'est quoi?
Et aujourd'hui, la dernière victoire, le grand fait d'armes de Didier, c'est d'abord, c'est toujours très compliqué, je vous le dis tout de suite, de comparer des athlètes.
Mais on parle de toutes les générations confondues, Jean-Michel et Jean-Pierre. On est d'accord.
De haut niveau.
Pas que sous Deschamps.
Je vais vous parler du carré magique Platini, Tigana, Genghini.
Et bien pourquoi pas.
Le sentiment que j'ai, c'est peut-être pas une équipe complète, mais en tout cas, il me semble que défensivement, je reprenais le grand titre de Didier Deschamps. Une défense qui était contre la Croatie pour le titre de champion du monde, composée de Pavard, Varane, Umtiti et Lucas Hernandez. Il me semble quand même que, même si ce ne sont peut-être pas les meilleurs, parce qu'il faut faire ça, faire une moyenne, il me semble quand même qu'entre Zaïre Emery, Konaté, Upamecano, Saliba, voire Digne, on est au même niveau. Devant, il y a pas, vous en avez parlé en long, en large et en travers, il n'y a quand même pas photo, puisque je vais prendre une autre génération, avec Diomède, Guy Varch et puis chez Plaqui devant, qui a été champion du monde en 98. Je pense, honnêtement, effectivement, au milieu de terrain, quand il y a Pogba et Kanté, on les a pas. On les a pas, c'est sûr. Mais il me semble que globalement, cette équipe-là est taillée au moins comme les autres. Et je dirais même que s'il y en a un ou deux qui se révèlent comme le petit Cherki, je pense qu'on a mieux que ce qui se faisait auparavant.
Alors Jean-Pierre,
d'accord. Alors moi, je vais répondre à la question. Alors déjà, la première chose, j'aime pas comparer les générations, parce que dans toutes les générations qu'il y a, il y a toujours eu, quoi qu'il arrive, des joueurs qui étaient hors normes. Non, mais c'est pas une question de gagner ou perdre, c'est une question de juste comprendre aujourd'hui ce qu'a Didier Deschamps en sa possession. Et ce qu'on a à notre possession. On a une équipe qui, à mon avis, peut faire de grandes choses. On n'a jamais eu autant de joueurs capables de faire partie de cette équipe de Coupe du Monde. Parce qu'il va y avoir les 26 de ce soir, mais il pourrait y en avoir peut-être 15 autres encore. Et je pense que ça, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on a pratiquement 40-45 joueurs capables de venir composer un groupe de l'équipe de France.
Donc c'est pour ça que tu prends cette position. Ok.
Et c'est pour ça que je prends cette position, ouais.
Bon, et ben bravo Jean-Pierre, c'était très clair. Thibaut va rendre son verdict. Est-ce que Thibaut, tu donnes la victoire au duo Larquet-Papin ou plutôt à Jérôme?
Plutôt à Jérôme.
Ah merci.
Il faut faire une comparaison parce que l'Euro 2000, on avait sûrement la meilleure équipe qu'a jamais eu l'équipe de France.
Ouais ouais.
On avait les trois meilleurs attaquants, les trois meilleurs championnats, je crois, il me semble, à cette époque-là.
C'est 2002, oui.
En attaque, mais après, c'est vrai que l'attaque, on a plus de joueurs cette saison, mais par contre, au milieu de terrain, désolé, quand j'entends Jean-Pierre Papin qu'on me dit qu'on peut avoir 40 joueurs, au milieu de terrain, on a du mal à avoir déjà trois bons milieux de terrain cette année.
C'est vrai.
Après, en défense, on avait quand même des joueurs qui jouaient à Chelsea, au Bayern de Munich, à Parme, en Euro 2000. Et en gardien, désolé, Fabien Barthez, il était à son opposé à cette époque-là. Après, on est obligé de comparer. On compare. Mais voilà, mais pour moi, non, la meilleure équipe de l'équipe de France qu'on a jamais eue, c'est l'Euro 2000.
Ok, bah voilà, c'est très clair. Merci Thibaut. Merci Victoire Thibaut. De Jérôme dans ce procès très animé qui était passionnant. On rappelle qu'on reparlera de la liste à 19h30.
C'est parce que Jérôme écrit trop fort, c'est normal.
Non.
Et vous aurez les infos.
Parle très longtemps.
Apparemment, j'étais hors sujet, mais j'ai gagné quand même.
T'as beaucoup transpiré depuis le début de l'émission quand même.
Non, très bien. Et puis, j'ai noté aussi le carré magique de Jean-Michel, juste pour pas mettre Luis Fernandez dans le carré magique. Donc, il a
fait. On embrasse Louis. J'étais à moitié 82 et à moitié 94.
Non mais Louis, moi je suis avec toi. Voilà. Non mais Louis, je suis avec toi.
Je prie Louis de m'excuser.
Et dans un instant, avec un supporter emblématique de l'OGC Nice, Alain Marchal qui sera avec nous. On va parler. Salut Alain, il est déjà là, il est prêt, il a écouté les plaidoiries.
Ah bah là, il s'est refait sa culture.
Il va nous parler de son inquiétude autour de son club de cœur qui va devoir assurer son maintien en Ligue 1 avant d'aller disputer la finale de la Coupe de France la semaine prochaine.
Il est pas maquillé, il a pris un coup dans la gueule.
Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec notre ami Alain Marchal qui est là pour parler de l'OGC Nice. Ça va mal à Nice.
On s'est entendu.
Ça va mal, ouais, très tendu. Ouais. On est avec.
Je peux pas vous dire le contraire là, au moins ça c'est factuellement, vous avez raison.
Okay. Bon, on a raison. Eh bien, on est avec Alain, je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Jean-Pierre Papin.
Un beau plateau, t'as vu ça?
Ouais, bonsoir messieurs.
Même s'ils ont perdu le procès, ils sont en forme quand même.
Exactement. Dans un quart d'heure, tu pourras écouter Alain. Roten se chauffe. Raymond Domenech est-il le seul responsable du fiasco de Nice-Na?
Il faut que je regarde le doc.
Regarder sur Netflix le doc.
On sera
avec un intervenant qui a vécu ça de l'intérieur. C'est Robert Duverne, l'homme au chrono, le préparateur physique qui avait très mal vécu la chose, qui a vu le documentaire et qui va nous donner son avis justement sur la façon dont c'est raconté et sur ses souvenirs.
Surtout que tu as vu, il y a eu les mises au point de Raymond Domenech.
Exactement. Et des joueurs d'ailleurs. Donc on pourra en parler.
Il y a un grand, je te conseille, un grand attaché de presse aussi, François Bernardo.
Il sera ce soir dans l'after. Ouais. Allez, tout de suite, on attaque.
Supporter de l'OGC Nice, François.
C'est vrai. Allez, c'est parti.
Ah
RMC, Roten sans flamme.
Non, allez, supporter, tu mérites.
Ah, je suis gavé, je suis énervé, je suis dépité. Tu sais, c'est le supporter, c'est un historien de l'instant. Et là, l'instant, là, il commence à être long. J'en ai marre.
Allô, Jérôme.
C'était en septembre, la saison était longue pour Alain Marchal.
Je te confirme.
Mais elle terminera sur la finale de la France.
En fait, on fait deux finales quasiment, parce que le match contre Metz, c'est une finale pour se maintenir, et la finale de la Coupe de France, c'est pour un trophée.
Sauf que la différence, c'est que si tu gagnes contre Lens, t'as la coupe. Et si tu gagnes contre Metz, tu peux descendre.
Toi, tu fais les barrages contre Saint-Etienne.
Ça dépend des résultats des autres.
Bah voilà. Et en plus, au pire, t'es en barrage. Donc, t'es pas non plus relégué. Bon,
enfin, si tu veux, on a commencé la saison en jouant le barrage de la Ligue des Champions.
Bah, tu vas finir avec le barrage.
Et on va terminer peut-être avec le barrage pour rester
La boucle est bouclée. C'est pas mal.
C'est pour ça qu'on t'invite à factuellement, à l'heure où on se parle, c'est Nice qui occupe cette place de barragiste. Même nombre de points que Auxerre. Le Havre a un point d'avance.
Avec un goal average défavorable pour
moi. Goal average défavorable. L'avantage, entre guillemets, mais là, on parle d'anciens fouteux qui vont tout de suite nous sauter dessus, c'est que le dernier match paraît plus favorable. Tu joues Metz qui est déjà relégué, alors qu'Auxerre va à Lille et que le Havre va à Lorient. Dans quel état tu es, toi?
Je suis dans
l'entraîneur de qui?
Je suis dans Metz. Il est quoi, l'entraîneur de Metz?
Thavenot?
Ouais.
Et il est Bastier?
Ah, d'accord.
Et c'est vrai. C'est pour chauffer Alain.
Non, mais c'est juste pour. Je suis dans l'état d'esprit, si tu veux, du supporter qui ne peut faire qu'une chose, c'est y croire. Tu vois, c'est-à-dire que tu serres les fesses, mais tu y crois, tu te dis que ce n'est pas possible, que Nice ne peut pas descendre cette année, surtout en affrontant. Là, sur les deux derniers matchs, on a affronté des équipes qui sont au même niveau que nous.
Ouais,
bien sûr, mais on affronte le dernier. Donc tu te dis que c'est un. Tant mieux, on nous offre le dernier. Donc s'il vous plaît, les Aiglons, mes amis, mes frères, s'il vous plaît, ne vous ratez pas sur ce coup-là. À la limite, la Coupe de France, si tu veux. Presque, j'allais dire, presque, je m'en fiche.
C'est pas vrai.
Non, je te jure. Je m'en fiche. Oui, vraiment. Je te dis, je m'en fiche. Pour l'intérêt pour nous, c'est de rester en Ligue 1.
Ouais.
Voilà. C'est ça. Si tu gagnes la Coupe, mais que tu descends en Ligue 2, je vois pas l'intérêt, même pour le projet sportif.
C'est un scénario étudié par la Ligue.
Je sais bien, même pour le repreneur éventuel. Je pense que l'intérêt, c'est plus d'avoir un club qui soit en Ligue 1. Enfin, pour moi, c'est que c'est ça l'important.
Mais tu n'arrives pas encore à te projeter sur la finale tant que cette Ligue 1 n'est pas terminée.
Tant qu'on n'a pas eu le match dimanche soir à 21h, je n'ose pas penser à la Ligue 2. À la, tu vois, lapsus.
Voilà.
je n'ose pas penser à la Coupe de France. J'ai déjà mes billets, les copains les ont achetés. Okay. Ils montent, je serai avec mes potes niçois, okay. On sera tous en finale. Non,
c'est terrible de toute façon. T'imagines de jouer la finale à la Coupe de France si derrière tu as une relégation. C'est à préparer, c'est horrible, même ces matchs de barrage.
Même si tu veux, barrage, même si on a en tête.
Le Reims a connu l'an dernier. Hein.
C'est vrai. Même si on a en tête, nous, les supporters, qu'on n'a rien gagné depuis 1997, ouais. Qui était contre la finale contre Guingamp, on a perdu
en finale de la Coupe de
France. Oui, en plus, on a perdu une finale de la Coupe de la Ligue et on a perdu une autre finale de Coupe de France, c'était contre Nantes. Donc, on se dit, allez, ça peut être sympa d'avoir un trophée à mettre, on n'en a pas beaucoup à l'UGC Nice, ouais. Mais d'avoir un trophée. Mais franchement, dans la situation dans laquelle on est, je ne veux pas parler au nom de tous les supporters, je parle juste en mon nom, c'est la Ligue 1 qui nous intéresse, Jean-Michel. Je sais pas,
Oui, cela dit, ce qui est incroyable, ce qui est impensable, c'est que ce club, il y a 2-3 ans, était repris par soi-disant un milliardaire et qu'il allait tout faire éclater. Et il a rien fait éclater du tout.
Mais Jean-Michel, les dernières saisons,
il a fait exploser le club. Mais quoi, voilà,
les dernières saisons, on a fait 4-5-4.
Eh oui.
Quand même, tu vois,
il y avait un barrage de Ligue des Champions.
On a été lamentable à chaque fois en Coupe d'Europe, puisqu'on était sur une suite de 12 ou 13
17 matchs.
Mais franchement, pour nous, c'était vachement bien. 4-5-4 l'année dernière, on est quatrième. Ouais. On joue. Alors, je sais pas moi ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des instances dirigeantes. J'en sais rien. Et je vais même te dire, finalement, c'est pas mon problème. Tu vois, nous, le supporter, tout ce qu'on voit,
tu t'es trompé. C'est que t'as des gens qui sont à la tête du club et qui dirigent le sportif, qui se sont trompés dans le recrutement.
Ah, bah oui, la cellule recrutement s'est plantée.
Ah, oui, et complètement. Et quand tu fais autant de matchs de Coupe d'Europe et autant de défaites, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème. Il y a un problème d'atmosphère.
De niveau,
mais aussi d'atmosphère, d'appréhension de la Coupe d'Europe. Tu peux pas prendre des claques comme ça a été le cas en Conference League ou en Europa League. C'est pas possible. De faire les barrages de Ligue des Champions, c'était une anomalie. Dans
le début de saison, on avait 12 blessés et on avait 6 joueurs qui étaient partis.
Mais c'est comme l'année dernière. Francaise nous disait qu'il y avait beaucoup de blessures et ceci, cela. Mais bon, s'il y a beaucoup de blessures d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu vois, dans le vestiaire, de prise de conscience, de ce que c'est.
D'hygiène de vie.
D'hygiène de vie,
aussi,
exactement. Nice à la Bella, on connaît. Hein,
de l'hygiène, oui.
Tu vois, non, mais c'est vrai.
À Monaco, tout le monde sait que ce sont des moines à Monaco. Tu comprends?
Bien sûr,
personne ne sort jamais. Personne ne
fait rien. Sauf que Monaco.
Et tu gagnes en Ligue des Champions. Voilà, donc tu ne peux pas comparer.
Tu gagnes en Ligue des Champions, non.
Excuse-moi, heureusement qu'il y a Monaco pour le match de Coupe d'Europe.
Toi, le grand supporter de Nice, tu l'espères justement l'arrivée de nouveaux investisseurs qui pourraient prendre la suite à Nice ?
Oui, comme tous les autres supporters, enfin que le club se stabilise, qu'on ait des bons recrutements, une vraie cellule de recrutement qui trouve les bons joueurs. Et moi, je peut-être même un nouvel entraîneur. Je vais te dire franchement, parce que on nous a vendu Puel avec Jean-Pierre Hiver et Maurice Cohen comme étant les Messi qui allaient nous sortir de là. Quand S s'en va, on est dans les 10 premiers encore. Le club est en crise, mais on est 10 premiers. Là aujourd'hui, on joue la finale de la Coupe de France, mais on joue les barrages. Je sais pas, moi à la limite je serais plus tenté de dire allez, faut renverser la table et passer complètement à autre chose. Virer tout le monde, virer la cellule de recrutement, virer tous ceux qui sont à l'étage, parce qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. J'en sais rien, aujourd'hui je suis un type qui est frustré et en colère. Alors la colère est jamais bonne conseillère, remarque.
T'étais mieux au Rennes.
Non, je dis ils sont loin encore de jouer les barrages. Tu vas mettre, c'est que et Lille doit gagner pour être en Ligue des Champions aussi.
C'est vrai.
Mais je pense que et je pense que moi, Nice va battre Metz, c'est que Auxerre va aller accrocher Lille avec un point, et encore, ce serait peut-être pas suffisant pour la Ligue des Champions. Donc,
ils en ont gagné
y a de
combien,
chances, quand même de rester en D1.
De matchs Nice sur les derniers.
Ah bah Alain, il doit savoir, il doit les compter les victoires.
Et la dernière victoire, c'était quand?
7 victoires cette saison.
Oui, c'est ça. On
doit aucune sur les 5 dernières journées.
J'allais dire 6-7 dernières journées.
Donc, Jean-Pierre, moi, je veux bien qu'on dise, oui, Metz, ils sont en Ligue 2, Metz, ils sont pas bons. Bien sûr qu'ils sont pas bons.
C'était sinon, à Angers le 14 mars.
Non, mais c'est un match à gagner, bien évidemment.
Mais c'est pas le premier à domicile qu'ils doivent gagner. Ils arrivent pas à le gagner.
Honnêtement, si tu regardes quand même la difficulté de la rencontre, c'est le match est plus difficile pour Auxerre à Lille.
Ah bah évidemment
que Nice,
bien sûr.
Oui, mais à domicile contre Metz.
Il y a deux journées de ça, tout le monde disait bon bah Auxerre ils sont cuits et puis Auxerre ils gagnaient pas un match, ils ont gagné leurs deux derniers matchs à domicile.
Jérôme, il veut juste faire peur à Alain.
Non, non, c'est pas que je veux faire peur à Alain, c'est que en fait je me souviens il y a 5 ans quand c'est il y a 5 ans Ineos hein.
Ouais, bah, ouais,
à peu près. Ça, voilà, je me souviens dans les couloirs, on s'était croisés avec Alain et Alain me disait tu vas voir qui va gagner la Ligue des Champions avant
ton club. Que supporter voilà,
donc je lui dis oui, bah t'as raison, écoute, écoute, je le souhaite.
J'espère
à Nice
qu'on gagne la Coupe de France.
Déjà, voilà, ça te changera parce que tu faisais 20 km à l'époque et encore pour aller voir les matchs de Ligue des Champions encore à Monaco et on t'accueillait. Et bah écoute, là, je te le souhaite de vivre des émotions en Champions League avec Nice. Et à l'arrivée, t'imagines 5 ans après? Dans quel état tête tu vas jouer? Tu joues un barrage de
alors,
en Ligue 1,
en Ligue 2,
tu vas peut-être gagner ouais, la Coupe de France et tu souhaites dimanche. Tu souhaites un nouvel investisseur. Bon. C'est terrible en fait.
Alain,
c'est
merci terrible. D'être venu. La bonne nouvelle de la journée, c'est donc ces 15 buts, 15 bus affrétés pour le déplacement des supporters niçois. Il y a eu une embrouille avec la SNCF.
La SNCF, donc tu voulais pas faire de train spécial pour les supporters de
le déplacement en bus, toi.
Finalement, 15 bus. En métro. Il est déjà à Paris.
Il est déjà à Paris. Moi, j'irai en métro avec les copains.
Non, tu me disais que tu avais un jet aussi qui partait de Nice.
Ouais, Alain, merci d'être venu.
Je vous en prie. Merci les amis.
Le mec prend le métro. Non, mais jamais. Non, mais arrête, un chauffeur derrière qui t'attend.
Les GG, les grandes gueules, 9h midi tous les jours sur RMC.
Les princesses, écoutez. Ah, les princesses.
Ah ouais, exactement. Allez, dans un instant, Rotten se chauffe. Raymond Domenech est-il le seul responsable du fiasco de Nice-Na? Restez avec nous. On sera avec Jean-Michel, Jean-Pierre, Jérôme et avec Robert Duverne, préparateur physique des Bleus en 2010. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.